Fred Savard avec vous pour un 26e épisode de La Balado. Un épisode qui, lors de son enregistrement, ne s'est pas déroulé comme prévu. Parce que, vous allez voir, en première partie, c'était Mathieu Bellil qui venait nous présenter le nouveau numéro de L'Inconvénient. Et avec Isabelle Arsenault. Et il y avait Yvon Rivard, que j'étais très heureux de retrouver. Et finalement, les présentations de magazines... On aime ça quand ça dure une quinzaine, vingtaine de minutes peut-être, mais là, ça, on est allé vraiment au-delà du trois quarts d'heure parce que Yvon Rivard était en feu, vous allez voir. Et c'est vraiment passionnant. C'était vraiment une belle discussion. Puis je profitais du fait qu'on était plusieurs autour de la table. C'est pas toujours possible avec la balado. Donc voilà. Et en deuxième partie d'épisode, c'est la chronique mensuelle de Godefroy Laurendeau qui s'intéresse à l'économie cette fois-ci. C'est rare qu'il fait ça. Et il a parlé à quelqu'un au HEC. Alors j'en dis pas plus. Peut-être... Des fois, Godefroy couvre des sujets qui seraient couverts par des chroniqueurs de droite économique si on en avait à la balado. On n'en a pas. Alors, des fois, Godefroy réussit à faire ça. Et c'est un caméléon. Alors, voilà, des petites annonces rapides avant de commencer. Justement, parlant de droite économique, je prépare un épisode, si je me croise les doigts, parce que j'ai pas eu la confirmation d'Éric Montigny et de Pascal Maillot, qui signent les deux un livre sur les 30 ans de l'ADQ. Éric Bédard va être de la partie aussi, parce qu'il en parle un peu dans le livre, et on revient dans le fond sur tout ce qui entourait... les luttes constitutionnelles de la fin des années 80, du début des années 90, les conditions qui ont fait naître l'ADQ, qui est devenue par la suite la CAQ, qui va peut-être imploser elle-même bientôt. On se croise les doigts. Mais tout ça pour dire que je me croise les doigts que ça fonctionne, parce que ça va être une belle discussion aussi. Et parlant de constitution, de relations interprovinciales, je l'ai dit sur les réseaux sociaux, mais je mentionne que j'étais sous le choc d'apprendre la mort de Benoît Pelletier la semaine dernière, parce qu'on était en contact pas plus tard que la semaine dernière. C'est quand même incroyable. Deux jours avant l'annonce de sa mort, il m'écrivait un courriel parce qu'on était supposé enregistrer cette semaine même un épisode avec Louis-Philippe Lampron, qui est déjà venu ici, professeur à l'Université de Sherbrooke, pour parler de la clause dérogatoire, la loi 21, la laïcité, mais surtout l'utilisation juridique de la clause dérogatoire. Je trouvais que la balado est un bon espace pour réfléchir longuement sur des sujets qui, moi, souvent, j'étais un peu perdu. Et c'est Louis-Philippe qui m'avait écrit pour me dire « Hey, il me semble que ce serait un bon sujet. » Et on trouvait donc, on cherchait une autre personne pour discuter avec Louis-Philippe. Il m'avait proposé Benoît Pelletier, puis j'aurais même pas imaginé moi-même oser lui écrire, lui, cette sommité du monde constitutionnel canadien. C'est un professeur... qui était toujours actif à l'Université d'Ottawa. Bon, finalement, il accepte. Il y a un contretemps, et ce contretemps-là, c'est malheureusement son décès. Alors, toutes mes pensées vont à la famille, que je ne connaissais pas, mais un peu, d'une certaine façon, puisqu'il s'apprêtait à venir enregistrer un épisode avec nous. Alors, voilà, c'est la première fois que la mort touche de si près... mon podcast, si on peut dire. Et voilà, ça m'a vraiment... ça m'a donné un choc. Alors, voilà. Sans plus tarder, donc, on se transporte dans l'épisode que je vous ai préparé. J'espère que vous allez aimer ça. Des fois, c'est vraiment... Moi-même, c'est toujours inattendu comment les épisodes se développent. Et celui-ci, le 26, c'en est un très, très bon exemple. Bon épisode, tout le monde. On va ouvrir l'épisode avec ça. Yvon Rivard, il faut que ça frotte. On dirait qu'on est dans le déclin.
Ah oui, c'est vrai. Il y a un coulibiac là, dans le four. Puis,
c'est bon. En fait, t'as une compote. 26e épisode, on commence ça un peu table ronde.
Ouais.
Entre amis, je pense que je peux dire ça. Ouais. Yvon Rivard, c'est votre deuxième apparition à la balado. Oui. Vous étiez venu à la saison 2.
Oui, c'est
avec
vrai.
Lise Bissonnette, qu'on va retrouver dans le numéro, parce qu'on va parler d'espoir pour ouvrir cet épisode-là. Mathieu Bellil.
Bonjour Fred.
On vous retrouve.
Ben oui, plaisir de vous retrouver.
Avec Yvon, avec Isabelle Arsenault.
Bonjour Fred.
Merci d'être là, parce que vous venez nous présenter le numéro... En fait, L'Inconvénient, c'est un prétexte. Ouais. Pour venir parler d'espoir, j'aime toujours ça avoir plusieurs personnes autour de la table.
Il faut dire aux auditeurs que je suis allé personnellement apporter les exemplaires.
Sauf chez nous.
À Poste Canada.
Ah, OK.
À Poste Canada, au centre de distribution, qui s'appelle d'ailleurs le centre Léo Blanchette.
Ah.
C'est à côté du Ikea. Ça a l'air quasiment... Léo Blanchette,
qui
ça
Léo
sonne
Blanchette?
Comme un café avec des repas de pâté chinois. Puis c'était un immense centre qui distribue le courrier pour le Montréal et le Québec.
Sûrement un gros rectangle brun.
Oui. Non, il est gris, mais c'est le genre. Soviétique. Et ce qui fait que, Fred, vous n'avez reçu votre exemplaire papier
aujourd'hui.
Qu'aujourd'hui.
Oui.
Et pour m'excuser, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais donner à Fred? Et je lui ai dit, tiens, je vais lui donner un petit livre de Tourguenieff, Père et fils, que j'enseigne ces temps-ci à mes étudiants et qu'ils adorent. Et ce qui est très beau dans ce livre-là, en fait, c'est que c'est tout un roman sur les rapports entre les générations.
Oui.
Et ça rejoint un peu le thème d'aujourd'hui parce que c'est un peu la question de... Ben, souvent, une génération a mené des combats.
Oui.
Puis elle s'est crue et sentie moderne et à l'avant-garde. Et tout à coup, arrivent des plus jeunes qui lui disent à cette génération, « Tasse-toi, vous êtes du passé. Oui. Vous comprenez plus rien. » »«
Vous êtes d'un certain âge, tassez-vous.
» Et c'est ça. Et c'est tout ça que met... en scène Tourguenieff avec un humour et une finesse. Et il le fait d'ailleurs, à l'époque, ce livre-là a paru en 1862, il déplaît à tout le monde au début. Parce que les progressistes se sentent caricaturés, les traditionnalistes se sentent caricaturés, les nihilistes disent « c'est pas ça le nihilisme ». Il y a une personne qui se lève à un moment donné et qui dit « là, vous allez arrêter, là ». C'est un grand livre, et cette personne-là, c'est Dostoïevski.
Ah, bon!
C'est pas pire, hein, quand Dostoïevski vous...
Cancer un petit bout sur les grands livres.
Cancer un bout.
Attends, est-ce que il est plus vieux que Tourguenieff?
Ils avaient... je pense que Dostoïevski est une petite affaire plus vieux que Tourguenieff, mais pas... peut-être une dizaine d'années, ouais, okay. de plus vieux. Ouais.
Ben merci, j'ai jamais lu Tourguenieff.
Ben, il faut lire Premier amour.
Oui.
Mais il faut lire Père et fils, à mon avis. C'est d'ailleurs
moi,
Tourguenieff...
Moi, qui ai deux fils, en plus.
Ben oui, c'est ça, je me suis dit ça.
Qui m'énerve.
Ben, bon, c'est en parfait. Plus. Fred, je pense que vous allez vous reconnaître à plein de moments. Puis à un moment donné, vous allez dire, coudonc, je suis si dépassé que ça. Non. Puis là, vous allez voir, Nicolas Petrovitch le dit. Mais je finis juste en disant ceci qui est très beau. Tourguenieff a inventé un mot qui n'existait pas avant dans le vocabulaire, c'est le mot nihiliste.
Ah ouais.
Le nihilisme, c'est le premier à l'utiliser.
Wow.
C'est ça.
Ah, mais merci.
Ben voilà, c'est un petit clin d'œil.
Ben merci. Parlant de clin d'œil, Isabelle, Arsenault, la dernière fois que vous êtes venue, vous avez laissé planer quelque chose qui m'a fait peur.
Oui. Et vous vous portez bien.
Mais qui n'est pas arrivé.
Il n'est pas arrivé. J'étais tout entière tendue.
On remet ça en contexte. Vous nous parliez.
Donc du numéro sur l'horreur.
Oui.
Et en discutant de mon propre texte, donc sur le monstre de la Miramichi,
voilà.
Je vous ai annoncé qu'il écrivait souvent aux podcasteurs.
Oui, parce qu'il nous écoute en prison.
J'imagine.
Oui.
Qui parlait de lui.
Oui.
Et je vous ai quitté en vous souhaitant joyeux Noël. Et
ça,
je suis sortie du studio tout entière portée par l'espoir me donneriez un jour de ces nouvelles.
Est-ce qu'il est trop tard ou il y a encore de l'espoir? Parce que en même temps, je ne sais pas comment le prendre, le fait qu'il ne m'a pas écrit. Est-ce que la balado n'est pas assez écoutée?
Ou alors, le temps en prison est un temps lent et un temps long.
Ouais.
Mais lasse d'attendre de vos nouvelles ou des siennes, j'ai pris les devants.
Ah!
Ouais. Et plongé dans un projet long d'écriture sur le monstre de la Miramichi. Et je suis donc depuis le début février... dans cet entre-deux absolument désagréable où je me prends à espérer ce que je devrais plutôt craindre, c'est-à-dire l'intrusion du monstre
mais ce projet-là, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus?
Pas encore.
Okay, parfait.
Je suis dans les archives.
Okay. Moi, je suis ça un peu parce que j'ai le bonheur de l'accompagner un peu comme dans le rôle de l'éditeur potentiel. Et c'est très excitant. Ça rappelle un peu aussi Truman Capote, en effet, Cold Blood. Et ça rappelle aussi Carrère, Emmanuel Carrère, avec l'adversaire. Et je rappelle que long de la prison, Carrère, ça prend beaucoup de temps avant le fameux Jean-Claude Roman
revienne lui répondre.
Oui, c'est ça.
Plongeons dans ce numéro, parce que moi, à la lecture, je l'ai trouvé... plus dense que les autres numéros.
La première chose qu'il faut expliquer, c'est le titre du numéro.
Oui.
On est rendu au numéro 96. qui a cette particularité, Fred, absolument passionnante, que 96 se lit dans les deux sens.
Oui.
Ça, c'est le genre d'affaires, ça fait vendre beaucoup.
Oui. Je pense que, par contre, 69 aurait été plus efficace.
Oui, c'est vrai. Malheureusement, il est passé, celui-là. Là, c'est vrai que les chiffres se font d'eau. C'est moins excitant.
Ouais, c'est peut-être un signe de l'époque aussi.
C'est un signe de l'époque. On est rendu ailleurs. Mais le titre, Après les grandes espérances, c'est-à-dire que, alors, d'abord, ça, c'est important de le dire. Moi, je me souviens, je suis arrivé avec au comité il y a quelques, je sais pas, peut-être un an, Isabelle, un an et demi, quelque chose comme ça.
Oui, à peu près.
En disant, ce serait le temps de faire un numéro sur l'espoir.
Ouais.
Et une des choses qui me venait en tête, c'est que je suis, et j'ai ce privilège, comme Isabelle et comme Yvon, très longtemps, d'être enseignant et d'être en contact avec beaucoup de jeunes. Et une des choses qui me frappait chez beaucoup de jeunes, pas tous, mais beaucoup de jeunes, c'est qu'ils avaient à l'échelle, pardon, sur le plan collectif, ils ont une vision assez négative de l'avenir.
Ouais.
À l'échelle individuelle, souvent, ils se disent « bon, je veux m'en sortir ». Ou sur l'échelle individuelle, on continue de faire des projets, mais à l'échelle collective, beaucoup d'inquiétudes. Et puis, je me disais « mon Dieu, il me semble que il y a quelque chose quand même. » Puis j'ai aussi, je sentais aussi, par exemple, avec le petit livre que j'ai publié, « Ce qui meurt en nous », avec un chapitre sur la lumière. D'ailleurs, réflexion que j'ai faite d'abord dans la balado,
ouais,
qu'à quel point ça avait touché les gens.
Ouais.
Et que les gens ont besoin de ça. Et je pense que c'est aussi un produit peut-être de la culture médiatique qui fait qu'on est toujours dans le négatif, la critique, etc. Il y a un décrochage même actuellement dans les médias, les gens le voient. Par ailleurs, là, tout de suite, mes collègues ont dit « Ben là, Mathieu, t'sais, l'espoir, t'sais, ça peut vite être quétaine. T'sais, ça peut tomber dans la psychopop. » Parce que l'inconvénient ne s'appelle pas l'inconvénient pour rien. C'est-à-dire il y a un esprit un peu où il faut reprendre à revers les choses. Puis là, j'ai dit « OK, je pense que là où vous accrochez, c'est qu'au fond, vous n'êtes pas capable d'envisager cette notion de l'espoir ou de l'espérance. On préfère la nuance, sur le plan collectif. C'est-à-dire, il y a quelque chose en vous qui résiste à l'élan utopique, à l'espèce de grande montée de confiance dans l'avenir. Pourquoi? Parce que nous sommes après les grandes espérances.
Oui.
C'est-à-dire, nous sommes à une époque où nous vivons un peu dans les cendres et les ruines des grands, grands, grands projets, des grands, grands, grands rêves qui ont marqué surtout le 20e siècle.
Ouais.
Et là, il y a comme une sorte de panne. On a de la peine à formuler ces rêves-là. Peut-être que la preuve en est qu'aujourd'hui, ce qu'on produit à profusion et sans aucune espèce de difficulté, c'est des dystopies. Symptômes, donc, d'une difficulté à penser l'avenir dans des termes heureux. D'autant que l'un des seuls vrais projets collectifs qu'on a en ce moment, c'est un projet qui consiste à tenter d'éviter l'apocalypse. C'est le projet écologique.
Oui.
C'est-à-dire que c'est pas un projet qui... quand on parle d'écologie puis qu'on parle du projet actuel, on n'a pas en tête des prairies verdoyantes.
Non.
On est comme plus dans une logique où il faudrait que ça traîne.
En fait, de gestion de l'apocalypse.
Voilà. Oui, c'est une bonne formule.
Oui.
Et donc... j'ai dit, est-ce qu'on peut quand même tenter de penser l'espoir dans un contexte où il y a une sorte d'hypothèque sur l'utopie?
Ouais.
Voilà. Mais là, arrive Yvon, puis arrive plein d'autres écrivains qui disent oui ou non à ça.
Il faut dire que Mathieu a travaillé fort pour ce numéro, parce que je ne sais pas s'il a mis beaucoup de temps à convaincre Isabelle, mais moi, ça a pris quelques temps, parce que, comme je raconte au tout début de mon texte, j'étais plutôt désespéré. Il faut dire que depuis 4 ans, j'écris sur la violence.
Ouais, c'est ça.
Et les raisons d'espérer sont pas très, très grandes.
Non.
Et je disais, Mathieu, ça tombe mal, là. On vient encore d'envahir Gaza. Et finalement, il est terrible. Il lâche pas le morceau.
Ouais.
Il est revenu au bout de 2-3 semaines, j'ai dit OK. Et là, je trouve ça, ce qui est merveilleux, c'est une apologie de la littérature. Tu te mets à écrire plutôt désespéré, puis plus tu écris, tu prends espoir. Et là, ça m'est revenu en cours de route. Quand je t'ai rendu au milieu du texte, je me suis dit, il y a une phrase de Camus qui est extraordinaire, qui dit « Écrire ou créer et être désespéré, c'est une antinomie. » Parce que si tu es complètement désespéré, tu n'écris pas.
Mais non.
Le propre même de la création littéraire, intellectuelle, toute forme de création procède d'un espoir. Et là, je l'ai vérifié. Je suis plutôt à plat, ça ne me tente pas d'écrire sur l'espoir, j'en ai pas beaucoup. Et là, je me mets à écrire, tout à coup, ça apparaît, ça revient. L'autre aspect de l'Apocalypse, il faut dire que pendant 4 ans, presque pas uniquement, mais j'ai lu beaucoup René Girard, évidemment, le grand anthropologue, dont la grande question, c'est d'où vient la violence?
Ouais, c'est son centre.
Et les derniers livres, c'est sur l'Apocalypse. Et sa grande idée, et elle est difficile à avaler, attendez, mais elle est partout. L'Apocalypse, c'est notre chance. Parce que là, il cite toujours le vers d'Hölderlin, là où est le danger, grandit le salut. Alors, cette idée, j'essaie de l'apprivoiser, c'est celle de Jean Bédard aussi dans ses textes, un autre philosophe, qui dit, au fond, l'Apocalypse, c'est quand tout s'effondre qu'il y a un sursaut de conscience. Ça, c'est le pari. Ça,
intéressant.
C'est intéressant, mais c'est pas facile à accepter.
Non, mais c'est quand même intéressant.
Ça veut dire qu'au fond, donc, la fin du monde, c'est le début d'un autre monde possible. Ouais. Alors, c'est pas gagné, mais c'est une chance. Pour qu'un autre monde commence, et on l'espère, c'est ma thèse, mais il faut qu'il y en ait un qui finisse. On est bien parti pour la partie 1 du programme.
Oui,
la partie 2.
Ouais. Mais... mais faut pas oublier non plus que le mot apocalypse veut dire révélation.
Oui,
et d'une
c'est
certaine
vrai.
Façon, c'est comme si l'apocalypse, c'est le moment de la lucidité. C'est le moment où on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant. Puis souvent, les humains, on est comme ça dans tout, hein, dans nos relations. Quand on sent qu'on va perdre quelque chose, tout à coup, la chose prend de la valeur et devient importante.
C'est vrai.
Yvon, vous étiez sur une lancée. Je vais vous renvoyer la balle. Votre texte s'appelle L'Évangile de Catherine et Pierre.
Ouais.
Parlez-nous un peu du déclic et qu'est-ce qui vous a amené à écrire...
Mais ça, le déclic, c'est véritablement, il y avait Mathieu qui me lâchait pas, puis que je disais non. Mais en même temps, il est arrivé ceci, la semaine où Catherine Dorion a sorti son livre, Les Têtes brûlées, à peu près, c'est la même semaine, ça coïncide avec la mort du cow-boy fringant. Et moi, je connais pas Catherine, j'avais pas lu son livre, je l'avais entendu une fois, puis j'avais été complètement ébloui. Et j'étais en deuil, parce que quand elle a annoncé son retrait de la politique, moi, je misais sur elle. Moi, je pensais que c'est la nouvelle René Lévesque et tout.
Ah oui?
Ah non, mais écoute, je trouve qu'elle avait tout pour elle. Là. Elle est intelligente, elle a une culture, ce que les politiciens n'ont pas nécessairement. Elle a tout pour elle. En même temps, on monte au pinacle, le pauvre cow-boy fringant qui vient de mourir, et on descend l'autre en flamme. Et là, je ne connaissais pas beaucoup les
cow-boys. Dans la même semaine.
Je ne connaissais pas beaucoup les cow-boys fringants, fait que je fais mes devoirs, je commence à en écouter. Tout ça très ordinaire, plutôt déprimant, sauf une chanson ou deux, là, l'Amérique pleure, ça c'est pas mal. Là, je me suis dit, c'est vraiment le triomphe du gars ben ordinaire là, qui vient de mourir, et l'autre qui est allumé, qui est une tête brûlée, qui est une sorcière, qui est une sorte de prophète, quelque chose. Elle, évidemment, elle est descendue.
Vous allez là, là!
Ah oui, moi, je vais loin, là. Mais ça m'a permis de comprendre pourquoi ces deux figures-là était presque emblématique ou symptomatique de ce qui se passe dans notre monde, là. D'un côté, il y avait la vie ordinaire que Mathieu a bien analysée. Ouais. Bienvenue au pays de la vie ordinaire. Ouais. Là, c'était le triomphe. Là. Ouais. C'est évident. Ouais. Et de l'autre côté, quelqu'un qui est un peu moins horizontal, là, qui est une espèce allumée d'une flamme et tout. D'un côté, si on reste à l'horizontale, c'est la fin du monde. De l'autre côté, si on entend, si le feu prend dans la baraque, on est peut-être sauvé.
Ouais. Voilà. Et il y a Pierre Vadeboncœur aussi.
Alors ça, c'est venu en cours de route. J'étais en train donc de lire Les Têtes brûlées.
Oui.
Et puis, je disais, mon Dieu, ça me rappelle vraiment quelqu'un, parce que bon, tout le monde sait que j'ai beaucoup écrit sur Vadeboncœur. Je l'ai connu pendant 40 ans. Je connais tous ses livres par cœur. Et là, si ça ressemble à du Vadeboncœur. Et là, page 240 ou 50 de son livre, elle cite une pleine page de Vadeboncœur. Je dis, tant que je ne suis pas dans le champ, elle a raison.
Ouais.
Et elle cite, c'est ça qui est important, une page de L'autorité du peuple, qui est, de tous les livres de Vadeboncœur, probablement un de ceux qui a été le moins commenté, le moins lu, y compris par moi-même, qui est un lecteur assidu de Vadeboncœur. C'est peut-être le dernier livre de Vadeboncœur que j'ai lu. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que c'est
et
ça?
Et en passant, Vadeboncœur lui-même, il n'aimait pas trop son livre.
Et alors,
c'est ce qu'on me raconte.
Donc, je l'avais lu il y a quatre ou
six mois.
Là, je l'ai relu. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, Catherine Dorion, c'est soft à côté de ça. Là. Pierre Vadeboncœur, dans ce livre, c'est d'une radicalité incroyable. Et d'abord, il fait le portrait du monde contemporain dont le personnage principal est le bourgeois. Denis de Rougemont, que j'aime beaucoup, avait dit aussi, un bourgeois, c'est quelqu'un qui n'a pas de problème réel. Okay? Ouais. Et il vit dans un monde irréel. Et il assoit son pouvoir parce qu'il est déconnecté de tout. Donc, c'est un portrait du bourgeois. Et Vadeboncœur connaissait bien la bourgeoisie. Oui. Il en était issu. C'est une révolte et un appel à une sorte de révolte et de révolution.
Ouais.
Du capitalisme, évidemment. Et c'est écrit en 65, là.
Ouais.
Et c'est très, très bizarre parce qu'on a beaucoup parlé de la ligne du risque.
C'est
et là, tu arrives deux ans après et on n'en parle pas. Parce que
c'est trop radical?
C'est radical. Et surtout, ce que j'aime beaucoup chez lui et que je retrouvais aussi chez Catherine Dorion, c'est à la fois, il y a deux livres obéissent à la même logique. une partie critique de révolte, encore plus chez Vadeboncœur que chez Catherine Dorion, tout y passe. Là. Ouais. C'est vraiment une radiographie, j'allais dire de la pourriture, de ce qui fait que le monde va finir et qu'on veut qu'il finisse. Ouais. Okay? Mmh. En même temps, c'est un non et en même temps, il y a un oui.
Ouais.
Alors, il y a donc la révolution se fait en deux temps, une critique de ce monde et un aperçu de ce que pourrait être un autre monde si on changeait de mentalité, de mode de pensée, de mode de vie. Catherine Dorion dit, c'est des termes c'est très amusant parce que c'est des termes poétiques. Réinventer la vie, changer le monde, c'est du Rimbaud, là. On les retrouve chez Vadeboncœur et chez Catherine Dorion. Ouais. Donc, tu as les deux, c'est-à-dire, oui, ce monde doit finir et voici pourquoi. Et comment il peut finir par la vraie révolution qui n'est pas politique d'abord. Il ne faut pas juste abolir les classes sociales. Il faut abolir ce qu'il y a de pourri dans l'esprit qui dissocie les êtres humains. Il y aurait, même s'ils n'ont pas lu Nietzsche, là, ceux qui entendent cet hymne-là, il y a des êtres supérieurs et il y a des êtres inférieurs. Évidemment, traduit en termes capitalistes, les êtres supérieurs, ils ont le pouvoir et le fric, et les autres sont les exclus.
Ouais.
Et les deux, Dorion et Vadeboncœur, disent « La révolution et le changement du monde, et peut-être échapper à l'apocalypse, va se faire si on revient du côté des exclus du peuple. » Pour Vadeboncœur et pour Catherine, le mot « peuple », c'est les gens qui sont exclus du pouvoir. C'est pas la classe moyenne, là. Et pourquoi? Et ça, c'est vraiment fascinant. Parce que si on revient pas à eux, il y a aucun espoir. Et ça, c'est une grande idée qu'on retrouve chez Bernanos, qu'on retrouve chez tous ces gens-là. Vous savez pourquoi les pauvres, les exclus sont importants? Parce qu'ils espèrent à notre place. Parce que c'est pas les bourgeois qui vont vouloir changer le monde, ils sont gras durs. Catherine Dorion dit il faut créer le peuple. Vadeboncœur, ça s'appelle l'autorité du peuple. Oui. Et il faut revenir, en quelque sorte, au peuple parce que c'est là que l'espoir a ses racines.
Il y a un moment, je pense, dans la vie de Vadeboncœur où il a l'impression qu'il a comme voulu être avec le peuple, qu'il a voulu partager. Tu sais, on voit ça chez Miron aussi. Hein? Il y a un moment où j'ai l'impression qu'il se rend compte qu'il l'a pas atteint ou qu'il ne l'atteindra pas, ce peuple, ou qu'il ne le rejoindra pas. Et ça, pour moi, c'est une vraie question.
Non, mais c'est intéressant.
Parce que est-ce que, comme intellectuel...
C'est pas un piège d'idéaliser le peuple.
C'est ça que je me pose la question.
La pauvreté.
Oui, c'est ça. De s'en faire une image.
C'est une bonne question.
Mais comment le rejoindre, l'atteindre?
Ben, revenons à Vadeboncœur rapidement. Vadeboncœur, il y a deux grands auteurs là, qui se rejoignent dans tous les textes que j'écris, Vadeboncœur et Simone Weil. Et c'est deux convertis. C'est deux grands intellectuels, bourgeois, qui un jour ont été convertis au peuple. Pierre Vadeboncœur, il l'a écrit, on peut le redire, et il a été dans la névrose de l'âge de 20 à 30 ans. C'est vraiment névrotique, là, tu sais. Ce qui l'a sauvé, deux choses. Sa femme, la rencontre de Marie, qui vit toujours, qui est une femme extraordinaire. Donc, l'amour et l'entrée dans le syndicalisme. Et là, je pense, pour reprendre ta question, Mathieu, que dans le syndicalisme, Vadeboncœur a vraiment été très... Il n'a pas idéalisé le peuple. Il a découvert le peuple.
Il a
écrit des pages un peu partout de personnes qu'il a côtoyées, qui sont des intellectuels. Quatrième année forte, mais plus brillant que la plupart des gens qui nous dirigent. Okay? Ouais. Alors, il y a un véritable amour. Alors, Pierre, il a vraiment découvert le peuple.
Un peu comme Simone Veil qui est allé travailler dans les usines.
Les usines et tout. Alors là, c'est les grands intellectuels qui atterrissent, c'est-à-dire qu'ils ne perdent pas leur intelligence, ils ne perdent pas leur référence culturelle ou quoi que ce soit, mais ils trouvent dans le peuple ce qui leur manquait, un contact profond avec le réel. Là où Pierre est déçu, il n'a jamais été déçu par ces gens qu'il a rencontrés là. Il était déçu par l'espoir qu'il avait mis sur les plus jeunes. C'est terrible, je sais, je lui ai reproché ce texte-là. Parce que dans les deux royaumes, parce qu'il avait écrit un texte extraordinaire qui s'appelle « Indépendance S ». Ça porte pas sur l'indépendance, ça porte sur ce qu'il appelle la révolution des jeunes, la nouvelle culture de pygmées qui va sauver le monde. En tout cas, c'est un livre extraordinaire. 4 ans après, il dit « Je me suis déçu, ils ont été avalés par la machine, ils consomment comme tout le monde, il n'y a pas d'espoir, il n'y a pas de futur avec eux. »
Dans les deux royaumes.
Et c'est à partir de ce moment-là qu'il, de peu de temps après, de toute façon, il prend sa retraite pour commencer à écrire à 55 ans. C'est assez fascinant, l'œuvre de Vadeboncœur, parce que déjà en 65, il savait que l'indépendance ne se ferait pas. Il s'est battu toute sa vie, il a appuyé, il a écrit, etc. Mais très tôt, il savait que ça ne se ferait pas. Pourquoi? Parce que le poison dans le fruit, c'était la bourgeoisie. Autrement dit, il y avait deux sources de déracinement. qui nous priverait du réel et donc de toute possibilité d'action. Et c'est les deux grandes sources de déracinement telles qu'identifiées par Simone Weil, l'argent et le savoir. Qu'est-ce qui arrive avec la Révolution? Je sais que je suis très dur avec la Révolution tranquille. J'échange des fois avec Gérard Bouchard là-dessus.
Oui, puis avec moi aussi.
Et avec
moi
toi.
Aussi, je suis pas tout à fait d'accord.
Et les autres, ils me ramènent à là. Mais moi, je les écoute parce que c'est des sages. Moi, oui. Je suis pas un sage. Bon. J'aime les têtes brûlées. Mais je maintiens que ce qui... Il y a eu des acquis de la Révolution tranquille. Oui. Le féminisme, il y en a eu plein. Bon. Mais foncièrement, on a donné les deux poisons à ceux qui devraient faire l'indépendance. Les deux poisons qui feront en sorte qu'ils ne l'affront jamais. Un pays qui ne se fera pas, dit Vadeboncœur dans sa correspondance avec Hélène Pelletier-Baillargeon.
Qui ne se fait pas.
Qui ne se fait pas.
Attention.
Qui ne se fait
pas. Fera pas.
Qui ne se fait pas. Alors.
Yvon, c'est vous là, qui mettez vos futurs. Là.
C'est un lapsus.
c'est un lapsus révélateur.
Ben, j'aimerais bien que ça se fasse et tout. C'est tout ça qui est un peu en jeu quand on parle de l'espoir, non seulement pour le Québec, pour dire la même chose de ce qui s'est passé en France, en Europe, tout ce qui a foiré, là, bon, mai 68. Il n'y a de véritable révolution, attention Isabelle, pas religieuse, spirituelle.
Oui.
Pourquoi? Parce que comment est-ce qu'on peut vouloir changer le monde, réinventer la vie, s'il n'y a pas une sorte de saut vers la transcendance, s'il n'y a pas ce que Vadeboncœur appelle un acte de foi, pas de croyance.
Non, non.
Ça, Vadeboncœur fait la distinction. J'ai la foi sans être croyant, dit-il. Et je trouve ça lumineux comme distinction. Et la foi, pour Vadeboncœur, c'est quelqu'un qui, un jour, comment est-ce que ça se produit, on ne sait pas, et on pourrait y revenir, c'est une sorte de grâce, qui tout à coup croit dans ces absolus que sont la Sainte Trinité, le beau, le bien, le vrai. Autrement dit, il n'y a rien qui peut se faire si en nous, il n'y a pas une sorte d'aspiration à la perfection. Voltaire s'est planté là. Ouais. Le mieux n'est pas l'ennemi du bien. Le mieux est ce qui empêche le bien de devenir médiocre.
Mais Voltaire était bourgeois.
Eh oui.
Le verre était dans le fruit.
Exactement.
Le verre était dans le fruit.
C'est comme Catherine Dorion. Catherine Dorion, c'est le survenant. Alors, si on veut comprendre qu'est-ce qu'elle fait au Québec, elle fait au Québec exactement ce que le survenant fait quand il débarque au Chenal du Moine. C'est une société agonisante, stagnante, qui vit dans la loi, dans la règle, dans les préjugés. Et c'est la figure christique, le survenant. Là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait passer le Chenal du Moine de la loi, de l'Ancien Testament, à l'amour.
Mais c'est aussi que, moi, ce qui m'a frappé, parce que pour revenir, parce que je sais qu'on a dû une discussion, Fred, je me rappelle, j'avais cité à un moment donné un passage d'un discours de Catherine Dorion, puis vous n'étiez pas très convaincu, hein? Vous aviez vos réserves.
Oui, j'ai mes réserves.
Puis je pense que c'est l'écart entre l'action et le discours.
Ben, en même temps, elle a fait la politique. Ouais. Je trouve souvent, puis j'ai ouvert son livre avec toutes les bonnes intentions du monde et j'ai arrêté rapidement.
Ben, trop tôt.
Peut-être.
Parce que les 100 derniers. OK, c'est intéressant ce que vous dites là. Parce que les 200 premières pages, c'est comme un journal de bord quand tu es en politique. Ouais. Et puis, il y a des trucs de son journal, etc. Les 100 dernières pages, il faut se rendre là, parce que là, ça décolle. Quand elle dit « on va lever une armée d'amour et de lumière, on va réinventer le monde », on est dans Rimbaud, là.
Ouais, mais je trouve que des fois, c'est un peu ça qui m'agace, je pense, chez Catherine Dorion, c'est qu'on est beaucoup dans ces formules-là. Mais en même temps, elle a fait la politique. Fait que je peux pas. Tu sais, j'y lève mon chapeau. Elle a fait ça. Elle est partie. Oui. Mais je trouve souvent que la persona de Catherine Dorion prend beaucoup de place par rapport à ce qu'elle a vraiment dit. Peut-être que je me trompe.
Non, mais moi, ce qui m'a le plus fasciné, au-delà de ce qu'on. Moi, j'ai pas encore lu le livre, donc je vais le lire. Je l'ai pas encore lu. Il y a beaucoup de livres que j'ai pas encore lus. C'est que.
Des millions.
Oui, c'est ça. C'est ça le problème avec la lecture. Hein, c'est plus vous avez lu, plus mais vous savez que vous n'avez encore rien lu.
Voilà. Bon,
c'est brutal. Mais moi, c'est à quel point elle fait réagir. Ce qui m'a frappé la semaine, tu sais, la fameuse semaine où Carl Tremblay décède. Mais moi, ce qui me frappait, c'est à quel point tout le monde sentait le besoin de se positionner sur Catherine Dorion et son livre.
Ouais.
C'est-à-dire, comprenez-vous, moi, ça m'a beaucoup impressionné.
Mais elle a fait la tournée des médias, elle recherche ça aussi.
Oui, oui, bien sûr. Ouais. Non.
Elle comprend aussi le marché médiatique. Puis là, il y a un spectacle qui s'en vient, on le sent.
Oui. Moi, je dis juste, ça m'impressionnait le fait qu'on réagisse. Et pour moi, le fait même qu'on veuille réagir en bien ou en mal me disait, OK, il y a quelque chose qu'il faut...
Mais tu sais, Mathieu, on a déjà parlé ici, le fait qu'elle quitte Québec solidaire aussi, ça confirmait que Québec solidaire n'est pas fonctionnel. Ouais, ça, je pense que ça fait plaisir. Ça fait plaisir à bien du monde dans la sphère médiatique.
Ouais.
Fait que c'était comme, c'était le fun de l'inviter.
Ah, okay, ouais, ouais,
et surtout que son livre est sorti juste avant le congrès de Québec solidaire.
Ouais, ouais, ouais.
Parce que c'est ça, les maisons d'édition ont des livres à vendre.
Ouais, ouais.
Fait que ça, bon.
Vous, Isabelle, vous aviez pas l'air convaincu non plus.
Ben non, j'ai toujours peur des hagiographies, mais le texte.
Mais moi, je l'ai entendu deux fois dans ma vie. Je raconte ça dans mon texte là. Et la première fois, c'était à Joliette. Et puis, écoute, ça m'a jeté par terre. En rafale, elle prend la parole. Véronique Côté, que je n'avais jamais vue de ma vie, qui est une autre. Ensuite, une slameuse, puis je ne suis pas très porté sur le slam. Mais les trois, c'était comme la mitraillette. Écoutez, ça m'a jeté par terre. Et puis, je l'ai vue dans un lancement où elle était en
train... Ça, vous racontez aussi, oui.
Là, j'ai vu qui c'était.
Oui.
C'est parce que moi, j'ai...
C'est une artiste aussi.
Quand,
tantôt, j'ai jeté l'histoire de René Lévesque, là, mais c'était pas en l'air, là. Parce qu'un jour, j'ai passé presque 18 heures avec René Lévesque. J'étais au Vermont.
Quelle année?
71, il était dans un sous-sol. Là, il travaillait pas et tout, etc. Ils sont partis à
Des grosses années d'ébullition.
Oui. Fait qu'on l'invite au Vermont, il était content, ça lui donnait 700 piastres. On l'a mis, j'ai été le chercher à l'autobus le matin, t'es arrivé en autobus, il n'y a pas de char. Il a pris la parole dans un milieu hostile qui était contre lui aux États-Unis, avec le Canadian Studies dont je faisais partie. Ouais. Je l'ai mis sur l'autobus à minuit le soir. Il a parlé sans arrêt et il a retourné tout le monde. Ouais. Pourquoi? Parce que il n'y a pas d'autre mot que quand quelqu'un parle et qu'il dit sa vérité et que c'est vrai, c'est irrésistible.
Ouais.
Et j'ai vu ça avec elle dans la petite librairie là, où je raconte et tout. Quand quelqu'un parle comme ça, ça dérange parce que, comme dit bien Mathieu, comme Mathieu dit très bien, quand on réagit très fort, c'est parce que la parole est allée toucher dans le mille.
Yvon Rivard vous dit les cow-boys fringants, bon, c'est la vie plate un peu qui est célébrée. Mais moi, je pense que ce qui a beaucoup touché les gens avec les cow-boys fringants, c'est pas tant la vie ordinaire que la modestie de ce groupe-là et du chanteur, entre autres. Puis ça, on le sait, la modestie, ça touche.
Okay. C'est la vie ordinaire.
Ouais.
Ben, c'est l'absence de prétention.
Ouais. Oui, c'est ça.
Mais sa jeunesse.
Je pense que Catherine Dorion est dans l'autre spectre.
Mais moi,
l'autre bord.
Moi, je trouve ce qui me... J'en ai quand même écouté une douzaine de chansons des Cowboys. Moi, je pense que ce qui a touché, je dirais pas le mot désespoir, il est trop fort, mais il y a une sorte de tristesse.
Oui.
Qui n'est pas très loin, c'est l'antichambre du désespoir.
Oui, mais
là,
ça, c'est quand on, par exemple...
Mais c'est pas toute l'œuvre des Cowboys, parce qu'il y a des chansons très festives, mais tout ce qu'ils ont fait, je pense que la modestie de ce groupe-là, c'est beaucoup ça qui a touché.
Le chant naturel de l'homme est triste, c'est ce que disait Chateaubriand.
Mathieu, vous le ferez pas, là, si je vous le dis pas de le faire, mais parlez-nous de votre texte, que j'ai beaucoup aimé.
Ah oui?
Qui est vraiment...
Tour de force.
Un tour de force. En fait, c'est c'est comme des diapositives.
Oui.
C'est de l'espoir depuis des siècles.
Je ne sais pas trop comment parler de ce texte-là. Parce que
vous étiez Mathieu, si tu étais Mathieu, un auteur médiéval, tu aurais écrit des histoires universelles.
Oui,
une sorte de tour de piste.
Oui, parce que ça s'appelle une brève histoire de l'espoir.
Tout à fait.
Ça commence avec Hésiode.
Oui.
Et ça, en fait, ça remonte même avant parce que je parle des Zoroastres. Donc. Puis je remonte jusqu'à notre époque toute contemporaine. Puis en fait, deux choses que je voudrais dire peut-être brièvement, c'est d'abord, j'avais envie de faire un texte où j'allais totalement assumer la prétention intellectuelle. De dire, ça se fait plus ça, les histoires universelles.
Ouais.
Je vais en faire une. Évidemment, tu sais comme... Puis je trouve que c'est le privilège de l'essayiste. Au fond, je prétends pas avoir tout dit sur l'espoir, absolument pas. Là. J'ai l'impression d'être plus... d'avoir comme un peu comme un arpenteur qui cherche excusez-moi ça va être une métaphore minière, je sais pas si les auditeurs vont aimer ça, mais tu sais qui va qui se promène puis qui cherche s'il y a des gisements un peu partout, puis à un moment donné il dit ah il y a quelque chose là, on va creuser un peu, puis ça il va ailleurs creuser un peu, pis de temps en temps il creuse, c'est pas bien long, ça fait trois lignes,
parce que c'est pas uniquement l'érudition dans le texte, parce que j'ai eu le temps de le survoler son texte là, mais je l'ai pas reçu, il me l'a envoyé, c'est par exemple la conception du temps. Non, mais ça, j'ai trouvé ça merveilleux parce que c'est comme un cours dans lequel on fait des liens qu'on ne fait pas d'habitude.
Oui.
Qu'on soit passé du temps grec au temps chrétien. Qui dit ça à la radio ou à une balado?
Personne, Yvon.
Ben, lui, il le fait.
Oui.
C'est vraiment ça qui, pour moi, est l'élément central de ma découverte. Parce que, mine de rien, il y a comme une découverte dans ce texte-là, c'est que aujourd'hui, je dirais que tout concourt à rendre l'espoir inutile.
Oui.
Dans le sens où on vit dans un monde où on n'est pas... L'espoir, Yvon l'a dit, c'est l'espoir vient du moment où on vit un manque, où on vit une humiliation. Et puis, dans le fond, on vit dans une société relativement confortable.
Oui.
Pas pour dire, bien sûr, que personne ne souffre, au contraire, mais globalement, disons, en moyenne, là, on est tous un peu confortables, assez pour pas faire la révolution, justement. Parce qu'on on fait la révolution quand on manque de pain et tout ça. Et ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que je me rends compte que la modernité, c'est une prise en charge de plus en plus raffinée du temps et de son déroulement. Et que, en fait, la planification du temps et de l'avenir est fait maintenant partie du processus politique. Et à mon avis, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les fameux changements climatiques dont Alain Roy parle dans l'éditorial, pourquoi les changements climatiques ne nous rejoignent pas tant que ça? D'abord parce que c'est une catastrophe qui se déroule au ralenti. Mais l'autre chose aussi, c'est que le discours politique prend en charge le temps, c'est-à-dire nous dit comment... à coup de dixième, comment la température va évoluer. Et donc, d'une certaine manière, le discours fait avec, même si en réalité, on n'en a pas une hostie d'idée.
Non, c'est vrai.
Puis si en réalité, en fait, on sera, ceux qui font cette prise en charge ne seront même pas là pour vérifier s'ils ont bien fait les choses. C'est un peu comme le marché à la bourse.
Ouais.
Quand on escompte une baisse de taux, là, on dit, elle n'est pas arrivée.
Non.
Mais on l'escompte. Puis elle est déjà. Puis quand la baisse arrive, il n'y a même pas de mouvement dans le marché parce qu'on l'avait déjà prévu, celle-là. Puis là, c'est un peu ça qui se passe avec le climat. Et je dis, à un moment donné, cette prise en charge de l'avenir, du temps et de l'avenir, à mon avis, est un peu inquiétante aussi parce qu'elle va dans le sens d'une accélération.
Ouais.
Je ne suis pas le premier à dire ça. Et j'ai l'impression, moi, que s'il y a une révolution à y avoir, puis j'ai l'impression que Catherine Dorion, Pierre Vadeboncœur et beaucoup bien des gens seraient d'accord, ça va être une révolution qui n'ira pas dans le sens d'une remise en mouvement du temps, mais dans une mise à l'arrêt du temps.
Puis ce qui est intéressant, c'est que justement cette chronologie-là que tu traces, puis le rapport au temps que tu mets en place dans ton texte, on le voit dans plusieurs autres textes où la question, Godbout écrit 2050, c'est le nouveau 2100. Mm-hmm. Donc il y a cette espèce de sentiment d'urgence et le constant absolument, bon, peut-être pas bipolaire, mais double, où certains collaborateurs nous disent il y a urgence et nos sociétés sont trop bureaucratiques, trop lentes pour répondre à l'urgence.
Trop démocratiques même peut-être, dans le cas
Parce qu'à un moment donné, il y a cette formule, hein, il dit on serait peut-être dû pour une sorte de...
Tyrannie éclairée. Et les plus jeunes qui écrivent dans ce numéro appellent à une sorte de ralentissement. C'est-à-dire qu'on constate le temps spectaculaire, farci de discours très polarisés, recours à l'émotion sur lequel revient Lise Bissonnette à la fin.
Mais Félix-Antoine Rousseau parle de ça.
Donc, tout ce travail sur l'accélération et la réponse qui devra peut-être être la réponse lente de la démocratie, c'est-à-dire le temps lent du débat, la remise en question, l'analyse. Je trouvais que chez les plus jeunes, dont on devine la jeunesse par les prénoms composés...
c'est vrai. Ça, c'est un bon indicateur.
Appelle à un ralentissement, à quitter ce monde spectaculaire où, pour se faire entendre ou pour porter une action, on a besoin d'aller vite.
Au début de l'épisode, avant qu'on parle du numéro, j'ai parlé d'Éric Bédard qui risque de revenir à la balado avec les auteurs du livre sur l'ADQ. Il vous a accompagné pour cette rencontre avec Lise Bissonnette.
Oui, c'est ça. Alors, on est allé rencontrer, c'était très émouvant parce qu'on est allé rencontrer Lise Bissonnette dans la librairie que Isabelle connaît bien parce que c'est dans
chez
son
Monette.
Quartier. Chez Monet.
Ou Monette, comme on dit.
C'est
dans
quoi
le quartier.
De Salaberry, c'est ça?
Oui, Salaberry ou Jolie Galerie de Normandie.
Galerie de Normandie, donc dans... tu sais, c'est Cartierville. C'était émouvant parce que c'est la librairie qu'elle fréquente depuis très longtemps, y compris avec son regretté conjoint.
Oui, voilà.
Puis Lise Bissonnette est toujours étonnante parce qu'on y avait envoyé une proposition, le texte d'une demi-page. Oui. Là. Elle se met à déconstruire chaque phrase. Elle lit ça, tu sais, qu'on est dans une époque qui aurait renoncé au projet.
Ouais.
Tu sais, un peu tout le laïus que j'ai fait au début de l'émission, en expliquant c'était quoi la panne d'utopie, tout ça. Puis elle dit, je me reconnais pas du tout là-dedans. Je comprends pas, puis pourquoi on arrêterait d'espérer? Pourquoi on arrêterait de faire des projets? Elle dit, si on fait pas de projets, c'est parce qu'on veut pas les faire. Puis, tu sais, elle secoue le cocotier, on peut dire, là, pas mal. Puis à un moment donné, puis là, ça donne un texte qui s'intitule sortir de la vallée
des lamentations.
Bon. mais
encore une imagerie religieuse.
C'est vrai.
Ouais. Ouais. C'est les évangiles.
Je trouve que ça a le mérite. En tout cas, moi, ça avait le mérite aussi de me rappeler. Des fois aussi, on manque de perspective historique, puis on a toujours l'impression d'être dans la pire époque.
Mm-hmm. Ouais.
Il y a ça aussi. Oui, c'est paradoxal.
Mais c'est pas nouveau, ça.
Non, c'est pas nouveau.
Et sa phrase est géniale. On répète à l'envi que tout est pourri. C'est notre mémoire qui l'est un peu.
Ouais. C'est ça. Alors, moi, j'ai trouvé ça intéressant comme contrepoint.
Oui,
ça, mais on, après
je
ça, on peut être pas d'accord.
Je veux que les gens lisent, parce que quand les Bissonnettes s'expriment, c'est toujours intéressant. Elle est venue ici deux fois, d'ailleurs.
Oui, oui.
On a parlé de... Bon. Sauf que tantôt, ils vont vraiment vous parler un peu des... en fait, ce qui était le problème au Québec, la bourgeoisie, le bourgeois. Oui. Et je trouvais qu'il y avait un peu de ça, je dois le dire, dans les positions de Lise, qui comprenait pas pourquoi les plus jeunes sont beaucoup dans le personnel, puis les identités.
Ouais.
Elle dit un peu aux jeunes, « Hey, moi, du haut de mes 80-quelques, j'en ai vécu des affaires, puis je peux vous dire que ça va pas si mal. » Mais moi, je trouve que c'est un piège de dire ça, parce que les jeunes le savent très bien dans quelle époque ils vivent. Puis moi, je leur laisse le bénéfice du doute par rapport à leur sensibilité. Puis peut-être qu'eux, ils savent que les grands projets, c'est une autre génération qui est portée pour l'instant. Puis qu'en attendant, il y a des choses à faire sur le plan identitaire des individus, parce que ces histoires-là n'ont pas été racontées avant.
Il faut écouter ce qui se passe.
Oui.
Parce que même si ça nous heurte, c'est-à-dire les transgenres et tout, parce que là, ça va loin, là.
Oui.
Moi, je trouve que la vraie révolution, là, c'est le décloisonnement, c'est l'abolition des frontières.
Oui.
OK? Des frontières non seulement entre le peuple et les individus, entre le peuple et les élites, les frontières entre comme le peuple et le pays, entre les pays et l'humanité, comme dit Vadeboncœur.
Ouais.
Alors, ça,
pourquoi
c'est,
pas même, Yvon Rivard, les frontières intérieures.
Et les frontières intérieures et même biologiques. Je sais que ça heurte, là. Okay? Mais ce qui est en train de se tramer, moi, j'aime beaucoup, ça fait grimper dans les rideaux. C'est une métaphore.
On l'a dans les rideaux ici.
Une mutation.
Il n'y en a pas, d'ailleurs.
Moi, je pense qu'il y a comme un changement radical qui est en train de se prendre. Vous parlez d'identité, c'est-à-dire, est-ce que c'est possible de penser le féminin, le masculin, les déterminismes autrement que comme des contraintes? Est-ce qu'on peut être à la fois à l'intérieur et à l'extérieur? Ouais. Est-ce qu'on peut être à la fois? Comme dit dans la Bible, j'ai lu ça dans Gérard.
On y revient toujours. Hein?
Non, mais Gérard, dans la Bible, c'est « Et Dieu les créa hommes et femmes ». Et
les deux en même temps.
Mais Lévinas dit, on n'a jamais pensé que ça peut voir. C'est pas un homme et une femme, c'est il les créa hommes et femmes. Alors, dans tous ces mouvements, même quand ils nous heurtent, moi, ça m'énerve aussi. C'est peut-être parce que je suis prof, puis je suis resté en contact avec les jeunes très longtemps. J'écoute quand il y a des mouvements comme ça, même ça me heurte, parce qu'il y a quelque chose qui se trame, là. Et même s'ils en paient le prix, ces gens-là, parce que c'est pas facile, là,
c'est
pour
eux. C'est ça qui arrive aussi,
Il faut les appuyer, il faut essayer de comprendre et tout, parce que ça s'en va vers quelque chose, à mon avis.
Je pense que oui aussi, je suis d'accord.
Mais je suis pas... oui, je suis tout à fait sensible, Yvon, à ce que tu dis, puis je lancerai le même appel, mais je suis pas certaine que c'est exactement en ce sens que j'ai, moi, compris ce texte-là. C'était une sorte d'appel qu'on retrouve autant chez les plus jeunes que chez les seniors du numéro, le plus vieux. Oui, c'est un numéro qui évolue tout à fait, les vieux.
Non, mais il y a des jeunes vieux, là, elle a raison, Isabelle. Il y a tout un mouvement au Québec chez les jeunes, les néo-nationalistes conservateurs.
Il y a des vieux jeunes.
Il y a des vieux jeunes.
Il y a des vieux jeunes.
Non, mais je l'entendais plus.
Il n'y a pas d'âge pour être vieux.
Non. Ni pour être jeune.
Ça, c'est drôle.
Moi, je l'entendais plutôt, parce que la critique sur l'espèce d'intérêt pour l'identitaire qui subsumerait tous les autres, c'est un petit paragraphe. Cette critique de l'espoir comme possibilité d'inaction. Et moi, je l'entendais plus comme cette espèce d'appel à sortir littéralement de la vallée des lamentations.
Et moi, je vous appelle à sortir, et là, vous allez peut-être vous lamenter, mais je vous appelle à sortir du temps long parce que le temps file et je veux qu'on parle des chroniques.
On a des sacrées belles chroniques.
Raymond, Robert Lévesque, on aimerait avoir des vies comme ça. Hein?
Ouais,
avoir
c'est que lui, il a connu tout le monde.
Il parle donc de la biographie de Godin, de Jonathan Livernois, pour parler très peu de la biographie, mais de ses souvenirs. Et c'est une succession d'anecdotes, de croiser des vedettes avec, évidemment, le style de Robert Lévesque.
C'est toujours impressionnant et intimidant parce que je me rappelle, on a fait un numéro sur Régent Ducharme. Ben là, tu sais, il nous racontait tout le temps qu'il travaillait avec ces gens de charme à Québec Presse. Tu sais, toi, t'es là, puis tu dis, Colin, j'aurais aimé ça.
D'ailleurs, c'est ce qu'il dit.
C'est un peu comme Yvon Rivard qui nous dit, j'ai passé 18 heures avec René Lévesque, c'est 18 de plus que moi.
Oui. Oui. Mais d'ailleurs, Robert Lévesque parle de ça, de son déclic pour parler de Gérald Godin, c'est qu'il l'avait engagé au journal Québec Presse, qui était un journaliste militant.
Puis même la dernière phrase, je me souviens qu'au début des 70s, tout semblait m'annoncer un avenir radieux. Voilà. On dirait qu'il a répondu même à notre appel sur l'espoir.
Bon, et sinon, là, on termine avec ça. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce numéro?
Très, très beau texte de Georges Privet sur des films de l'année. Oui. Il met Barbie et Oppenheimer en relation.
Mais c'est fou, on n'y avait pas pensé.
Non, c'est brillant parce qu'il nous rappelle aussi une chose que j'ai adorée. C'est qu'il nous rappelle que le mot blockbuster, c'est un terme militaire à l'origine. Et ça nous rappelle, il rappelle qu'en fait, c'est pas innocent.
Le bloc, là, dans le blockbuster, c'est un pâté de maison.
C'est ça, hein.
Qu'on détruit.
On bloque, on fait buster le bloc.
Le bloc,
excusez pour mon français.
Ouais.
Mais très beau, toujours des beaux textes aussi de.
Et pour nous rappeler que le cinéma américain. N'est pas nécessairement porteur d'espoir pour tout le monde.
Non, et je veux dire, quand la guerre finit, c'est documenté, le président des États-Unis dit il faut envahir le marché européen.
Oui.
Il ne faut pas seulement les nourrir, nourrir le corps, mais il faut nourrir l'imaginaire.
Voilà.
Voilà.
C'est deux films que je n'ai pas vus en passant.
OK.
C'est voulu.
Moi j'ai vu Oppenheimer,
C'est drôle parce que j'ai l'impression que tu résumes l'histoire, tu n'as pas besoin de voir le film. Je l'ai pas vu pour ça.
C'est un peu ça.
Ouais,
très bonne raison pour lire Le Dernier Inconvénient.
Voilà. Quand je regarde moins de films, je lis plus.
Des beaux poèmes aussi, une suite magnifique de Laura Barry. Des chroniques de Marie-André Lamontagne qui nous parle de littérature française, étrangère, avec toujours autant
avec
de talent.
Avec des recensions aussi.
Martine Belland, on n'a pas beaucoup nommé Martine, qui nous pose vraiment la question de si elle est vraie, à part vraiment de la tradition philosophique, elle se méfie de l'espoir.
Oui.
Parce que dans la tradition philosophique, il y a une vraie méfiance. Oui. Et elle est là dès l'origine, parce que quand Hésiode raconte un peu la naissance du monde et qu'il dit que Pandore a reçu en cadeau une jarre, qu'elle ne doit pas... En fait, c'est une jarre et pas une boîte qu'elle ne doit pas ouvrir. Finalement, évidemment, elle fait ce que fait tout bon humain, c'est elle ouvre la jarre. Et tous les malheurs du monde sortent.
Mais en fait, il y a tout. Il n'y a pas juste les malheurs là-dedans.
Ben, en fait, c'est ça qui est paradoxal.
On a retenu les malheurs.
Oui, mais il n'y a pas juste des malheurs.
Il y a juste une affaire qui n'est pas un malheur, c'est l'espoir.
Qui reste au fond.
Qui reste pris au fond.
Mais il est quand même dans la boîte.
Oui, mais sauf que la question que se posent les philosophes, c'est est-ce que c'est un... C'est quoi donc l'espoir? C'est un malheur?
Dont on a voulu nous préserver.
Comprenez-vous?
Il faut que je m'arrête ici pour vrai parce que Godefroy s'en vient.
Mais là, on s'excuse.
Godefroy s'en vient.
Et on est tellement plein d'espérance.
Mais c'est... Non, mais j'étais content. C'est ça, je voulais une grande discussion avec des amis de la balado, je dois le dire.
Ben,
vous êtes rendus des amis de la balado. Ils vont peut-être pas attendre 4 ans avant de revenir.
Mais là, ça me réconcilie. Non, écoute, je vais pas m'écouter, fait que je peux le dire maintenant. J'aime ça, là. Ça me réconcilie parce que je veux plus aller parler parce que je trouve que ça trahit l'écrit.
Savez-vous, c'est quoi la différence, Yvon? C'est qu'il n'y a pas de chronomètre.
Non.
Ah!
Parce que vraiment, le chronomètre, c'est intimidant.
On a du temps ici.
Ouais.
Non, c'est vrai.
C'est comme, OK, mon Dieu, il me reste déjà juste 30 secondes pour
dire... La balado, il y a du temps.
Non, mais je vais te comprendre. OK, je reviens quand vous voulez.
Mais moi, j'entendrai bien, ils vont sur le sport. Hein. Prochain numéro.
Hockeyeur,
tennisman.
Eh oui, j'ai fait quelques textes sur le sport. Mais
écoute, ça serait intéressant.
Quand on creuse, je vais faire un petit test. Si on creuse dans tous les Québécois qui sont intellectuels et tout, etc., le fond, c'est le sport. Le fond de la culture québécoise, c'est le sport. Nommez-moi quelqu'un qui n'a jamais fait de sport, qui a écrit des livres, qui a fait des films. Il n'y en a presque pas. De ma génération, ça n'existe pas.
Peut-être que la génération était plus active.
Si quelqu'un n'a pas fait de sport, c'est vraiment un marginal. C'est suspect.
Est-ce que les e-sports sont inclus?
Toi, Mathieu?
Non. J'étais un grand joueur de hockey puis coureur.
Bon,
malheureusement, mon corps... Mais...
Fred, sport.
Moi, j'ai joué au hockey beaucoup.
Bon, voilà.
Je fais beaucoup de sport.
Quelle position, Fred?
Moi, j'ai joué ailier droit.
Ah, c'est bon, ça.
Ouais.
La boxe.
Sérieux?
La boxe, là?
Wow.
Ah ouais.
Elle fréquente les criminels, elle a fait de la boxe.
Ben écoute, faut se défendre.
On découvre mon vrai visage. Ben,
comment ça, la boxe? Non, mais la boxe, comme
sérieux?
Les combats.
Okay, la boxe, on va continuer à parler.
OK, bye. Bye tout le monde.
Merci.
Merci. Isabelle, Arsenault, Yvon Rivard.
Plaisir.
Merci. C'est super bon.
Décuplé.
Mais je fume les cigares de temps en temps encore.
Est-ce que vous pensez que ça vous donne plus de puissance, ça?
Non, mais ça me permet de me sortir de la maison quand Miville n'est pas du monde. Hey, on enregistre!
Et voilà! Bonjour!
Hey! Comment ça va?
Ça va très bien, Fred. J'étais très dû. On dirait que ça fait plus qu'un mois. Pourtant, on s'est vu il y a un mois pour parler d'Hydro-Québec et de Pierrot.
Je sais. Bin. Peut-être que le printemps est lourd.
Le temps passe pas vite. En tout cas, je me suis, ça fait comme si ça faisait deux mois que j'avais pas préparé une chronique. Eh ben. Et donc, j'en ai préparé une pas pire.
Ah, j'ai envie d'entendre
ça. Ouais. Dans un domaine dont je parle, je dis que ça m'intéresse, oui. L'économie, et à laquelle, finalement, j'ai pas le temps de m'intéresser parce qu'il se passe trop d'affaires poches en environnement dont je dois parler.
Oui.
Mais oui, c'est,
on salue les gens en Montérégie.
Qui font un effort constant.
Oui. Pour que ça aille mieux.
Oui. Quelques tortues.
On parle
aussi. On est crypté. En ce moment, il y a des complotistes qui se disent « ça y est ».
Oui.
Ils sont passés du bon bord. Fred, avant de commencer, il faut que je dise à mes auditeurs, à nos auditeurs,
oui.
que je vais être à Québec pour le Salon du livre de Québec.
Ah!
Et donc, ma vie publique se complexifie.
Est-ce que vous allez être en séance de dédicace?
Non, parce que je n'ai pas écrit de livre. J'ai bien essayé, mais ils m'ont dit « monsieur, sortez d'ici ». Par contre, j'ai offert mes services en tant qu'animateur, parce qu'il y a toutes sortes d'animations là-bas.
Ben oui.
Et je vais animer deux animations, ce qu'on appelle des rencontres croisées.
Oui.
Et donc, j'anime le samedi 13, Fred.
13 quoi?
Le 13 avril, pendant le Salon du livre de Québec.
Ah!
Que diable, le Salon international.
Et
donc, je vais animer deux discussions croisées avec donc deux fois deux auteurs.
Oui.
Une fois, on va parler du système de santé.
C'est-tu avec Anne Plourde?
Anne Plourde, c'est une des deux intervenantes, oui, effectivement. Et elle en a beaucoup à dire
oui.
sur la pseudo-efficacité du système de santé qui est présenté comme quelque chose de tout nouveau. On entre un peu de privé là, pour se dynamiser alors
ouais.
qu'on traîne un passif. Première discussion
oui.
et l'autre discussion sur le travail.
Ah oui, oui. Ah oui avec Gilles Pascal.
Absolument. Et on n'a jamais travaillé aussi peu en termes d'heures et pourtant on n'a peut-être jamais été aussi décalissé, comme
ah
on
oui.
dit dans le monde du travail.
Pourtant, on est en retard avec l'Ontario.
Mm-hmm. Et ces deux discussions-là, samedi soir, donc, si je ne me trompe pas, 5h30 et 6h30 sur je ne sais plus quelle scène.
Okay.
Et donc, je serai là.
Bon.
Si vous êtes à Québec, venez me dire salut.
Avril.
N'hésitez pas. Je sais que les gens, parfois, même à l'événement spécial de la balado...
Ils viennent pas nous voir.
Ils viennent pas nous voir.
Ils sont gênés.
Ils se disent ils veulent la paix. Eh bien non. Moi, en tout cas, je veux pas la paix. Venez me voir, venez
oui.
me dire salut. Et puis, j'ai très hâte.
Et qui sait, vous allez peut-être faire des dédicaces. Même si tu n'avais pas écrit de livre?
Absolument. Pourquoi pas?
Pourquoi pas?
Je serais willing.
Bon.
Et voilà. Première des choses, donc, à Québec, rendez-vous pour le Salon du livre et puis allez-y donc pour tout le reste du salon.
Oui, oui, oui.
Donc,
oui.
Dites pas que vous allez juste pour me voir. Les
non.
gens vont trouver ça curieux. J'ai hâte. J'étais énervé. J'étais là. L'année passée, je suis allé pour écouter toutes ces conférences.
Moi aussi, j'étais là.
Ces participations. Et là, ça y est.
J'ai mis une alarme à feu.
C'est vrai.
Il n'y avait pas de feu, finalement.
Non.
Et quand je suis arrivé?
Oui. Il y avait peut-être un lien. Des gens voulaient vous rendre, voulaient vous mettre sur mute.
Peut-être j'ai enflammé les gens.
Fred, il y avait un autre élément dont je voulais parler, avant
oui,
même
je
ma chronique.
Ah?
Il y a certaines choses qui nous découragent parfois, puis il y a d'autres éléments qui nous réjouissent. Nous autres, Fred, là, depuis 4 ans qu'on fait la balado, 5
six.
Ans, 6 ans, 6 ans,
c'est
incroyable.
La sixième saison?
Pour ma part, je suis manifestement plus informé et moins niaiseux que j'étais il y a 6
oui.
ans. Et j'ose espérer que ceux qui nous écoutent nous suivent aussi. Mais collectivement, on est aussi moins niaiseux sur un enjeu, par exemple, comme celui qui a été défendu par Louis Robert.
Oui.
Et Louis Robert, on ne vous en reparlera pas, mais un des chevals de bataille, c'est de réduire l'utilisation des pesticides et réduire l'influence du secteur agrochimique sur le réseau, entre autres, des agronomes. Et
oui.
un des dossiers principaux sur lesquels doit se pencher l'Ordre des agronomes, du Québec, c'est de trouver une façon de légiférer, parce qu'ils ne peuvent pas encore pour l'instant, s'assurer que les gens qui prescrivent des médicaments ou encore des pesticides
oui.
aux agriculteurs ne sont pas également payés par l'industrie qui, elle, est là pour vendre et faire des profits. Et là, soudainement, on se ramasse avec un ordre qui nomme un nouveau PDG
oui.
qui sera tout simplement un ancien lobbyiste de l'industrie agrochimique.
Ah.
Et l'homme le plus influent du Québec n'est pas dupe.
Si je me mets dans la peau des auditeurs ce matin, là,
oui.
puis on a souvent parlé avec Louis Robert, puis le constat qui est fait par Louis Robert, qui est de dire on peut produire aussi bien sans utiliser autant de pesticides. C'est possible de le faire. Il s'agit de, comme on dit, repenser la façon de produire.
Oui, on est tout à fait d'accord avec ça, puis c'est ce qu'on souhaite aussi.
Ben là, vous allez m'expliquer pourquoi vous embauchez comme DG quelqu'un qui est un lobbyiste du monde des pesticides.
Alors, elle explique très bien après ça pourquoi c'est cette personne-là qui a
ouais.
été choisie, mais Paul Arcand, il fait référence à l'affaire Louis Robert.
Ouais,
pourtant,
ouais.
ça s'éloigne dans le rétroviseur derrière, on n'en parle
vrai.
Plus. Et Paul Arcand garde ça en tête et de voir que c'est dans le grand public à ce point-là pour que Paul Arcand le relève et challenge l'ordre, ben, je suis content.
Ben oui.
Je suis content que le passage de Louis Robert ne soit pas qu'un feu de paille
c'est vrai.
ou qu'un engrais temporaire. Et voilà.
Bravo, Paul Arcand.
Bravo. Bravo, l'information. Fred, on est parti. Oui. On est parti. Vous m'avez envoyé... vous me pistez régulièrement sur certaines choses. Oui. Et,
vous en faites ce que vous voulez. Hein.
Exactement. Et, mais souvent, c'est très intéressant. Et là, vous m'avez pisté sur un article de la revue Science qui était titré « The Reckoning ». Ça datait du 7 mars, donc juste après notre chronique sur Rideau-Québec. Et le terme « Reckoning », vraiment, je ne voyais pas trop de quoi il s'agissait.
Ça a l'air d'un titre de film des années 90.
Oui, un film d'horreur. Ouais. Et en fait, c'est souvent utilisé pour parler d'un moment où on doit faire face aux conséquences négatives de choix ou d'actions qu'on a posées. Comme un moment de... C'est pas des bonnes nouvelles. Dans ta face. Genre, ce que t'as craché te retourne dans la face. Et celui qui fait face à son crachat en ce moment, c'est nul autre qu'une vedette de la pandémie, le microbiologiste Didier Raoult.
Ah oui!
Voilà. Et donc, médecin vedette pendant la pandémie. Et ça me fait réfléchir à la pandémie. C'est ça mon point principal. Ouais. C'est que ce serait agréable, ce serait important qu'on n'oublie pas absolument tout ce qui s'est passé pendant la pandémie.
Non, vraiment.
Et une des choses qu'on a fait, c'est qu'on avait... la chance de voir la science se développer sur un nouveau sujet, une maladie qui n'existait pas deux mois avant, et la science qui se développait en temps réel.
En plein vol.
Et on était informés en même temps par des gens à qui on faisait confiance, et aussi on avait envie que ce soit clair.
Oui.
Et donc, si on avait des gens qui étaient pleins de doutes et qui n'étaient pas sûrs de quoi que ce soit...
Ou trop nuancés.
On les écoutait pas. Et quand on avait un médecin un peu tout croche, barbu, avec un petit air de poète maudit, avec un sarrau un peu sale, l'instinct de l'être humain, c'est de faire confiance au gros bon sens, à ce qu'on voit, à ceux qui détiennent l'autorité. Le soleil tourne autour de la Terre. Je pense que c'est évident.
Oui.
Christy, il se lève là. Il se couche là.
Jusqu'à preuve du contraire.
Et demain, il revient. Ben, Fred, moi, je pense que c'est une évidence. Une autre évidence, il y a un trafic fou à Québec.
Oui.
Regarde, c'est une évidence. Vous voyez un peu le principe? Didier Raoult, c'est le microbiologiste français qui a été une vedette instantanée.
Oui.
Et là, il s'avère finalement être contesté de façon vraiment très officielle. Et plusieurs de ses publications de recherche ont été retirées. Il y en a d'autres qui vont être retirées. Les
publications avant la pandémie.
Absolument.
Là.
Et des récents aussi.
Oui, oui.
Parce qu'il y a des recherches qui impliquaient autant des échantillons aussi gros que 30 000 personnes.
Oui.
Et les enjeux qui sont les plus importants, c'est les enjeux d'éthique.
Oui.
Donc, il a fait des recherches de façon complètement inacceptable en testant, entre autres, des médicaments qui n'étaient plus autorisés.
Sur des personnes qui n'étaient pas nécessairement consentantes.
Comme, par exemple, des itinérants dans des refuges.
Oui.
Alors, bref, c'est ce qu'on appelle une dégringolade.
Oui.
Et donc, ça nous fait découvrir, justement, cet article dans la revue Science. Ça nous rappelle que la méthode scientifique est là pour nous éloigner de la connaissance qui autrement se construit, entre autres, à partir de la notoriété.
Oui.
C'est la connaissance basée sur l'éminence.
Oui.
Et c'est de ça qu'on s'éloigne avec la méthode scientifique. La science a des outils de vérification qu'il suffit d'appliquer. C'est la vérification par les pairs.
Oui.
C'est imparfait, ça demande du temps. Mais si on laisse du temps à la science, on finit par s'approcher de la réalité et c'est ce qui arrive à ce bon vieux barbu.
Ce texte, oui.
Oui, à lire parce que c'est...
Parce qu'en fait, c'est le travail de d'autres scientifiques.
Des gens qui ont vu des résultats de recherche pendant la COVID sur l'hydroxychloroquine puis qui ont dit, il me semble que ça sort vite ces résultats. Et qui ont appelé à l'IHU Marseille où est installé M. Raoult et a posé quelques questions. Et les personnes, en gros, leur ont répondu, écoutez, monsieur, on est une entreprise sérieuse. Vos questions sont donc illégitimes.
Ouais.
Et là, ça a été suffisant pour leur dire « Ah oui? Ah bon, d'accord! » Et ces gens-là travaillent, font de la recherche depuis, et c'est du monde un peu partout dans le monde qui se sont posés les mêmes questions.
Ouais.
Mais ça va aussi loin, Fred, que de se dire si on avait été un peu plus rigoureux dans la façon de surveiller ces publications, il y aurait sans doute eu moins de morts de la COVID.
Voilà.
Tout simplement.
Pour ceux qui croient à la COVID.
On aurait bu, on aurait bu moins d'hydroxychloroquine en espérant que ça se passe bien.
Voilà.
Autre nouvelle qui touche un autre sujet dont on a parlé déjà ici, Nemaska Lithium.
Ah, donc, mon Dieu!
Ça, c'est un sujet qui m'est cher. J'en avais parlé à quelques reprises parce que ça fait longtemps. Là, on parlait d'une chaîne possible de valeur autour de la batterie. Ça fait 4 ans qu'on parle de ça. Et donc, c'est un projet de mine dans le nord du Québec qui vise l'extraction du lithium, donc ce matériel critique dans l'élaboration des batteries. Et là, ce qui m'excitait surtout, c'est que la transformation secondaire, ce qui nous échappe tout le temps au Québec et dont on a parlé il y a un mois, il devait dans le plan y avoir une usine métallurgique de transformation du lithium en hydroxyde de lithium qui allait pouvoir être donc une valeur ajoutée transformée au Québec et ça devait se faire ici au Québec à Shawinigan.
Oui.
Je ne le savais pas, mais quelque part, là, à travers tous les déboires financiers de Nemaska Lithium, donc Québec est rendu à une part de 50 % de l'actionnariat de cette compagnie-là. L'autre 50 % c'est un autre investisseur. Et là, la raison pour laquelle on en parle maintenant, premièrement, c'est que je ne le savais pas, mais l'usine métallurgique, elle a bougé un petit peu. Elle sera maintenant à Bécancour, dans ce pôle de l'innovation. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaie aussi d'attirer à Bécancour le géant japonais Honda.
Oui.
Et c'est ça l'article qui a paru à la fois dans la presse et dans les différentes plateformes de Radio-Canada.
Oui.
On apprend que Honda serait intéressé de s'installer à la fois en Ontario et au Québec. Et nous, notre façon de les attirer, ce serait en leur proposant, entre autres, du lithium à bas prix. Et même, contrairement à Ford qu'on a attiré, GM qu'on a attiré, pour les mêmes types d'usines, c'est-à-dire une usine de fabrication de composantes de batterie qui utiliserait le lithium peut-être de Damasco, eux, on leur a fait des prêts sans intérêt, 130 millions, 200 millions, 300 millions. Honda, ce serait un peu différent.
Ah?
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. C'est, Québec céderait, et c'est pas confirmé encore, mais il pourrait céder une part de ses propres actions dans Nemaska Lithium à Honda, en plus de lui offrir, donc lui garantir une proportion du lithium,
oui.
Lui dire ce lithium-là va être garanti pour toi, et également un bon prix, évidemment, sur notre précieux lithium, en échange d'une usine à Bécancour qui viendrait s'ajouter, une usine de plusieurs milliards de dollars. Mais là, on en revient aux mêmes questions qu'on se posait dans ma dernière chronique, c'est les choix discrétionnaires. Donc, Fitzgibbon en a du pouvoir. C'est lui qui décide ce qu'il va faire avec nos kilowattheures, donc qui sont des subventions déguisées, comme on le sait maintenant. Ce que Investissement Québec choisit de faire aussi, est-ce qu'on soutient vraiment un développement profond de toute la filière ou est-ce qu'on est seulement, encore une fois, en train de brader des ressources? Puis là, on se pose la question, parce que c'est ce qui est arrivé par le passé, c'est les premiers investisseurs privés qui sont des géants, c'est eux, au bout de la ligne, qui ramassent l'immense majorité. On parle de quelques écoulements fiscaux vers la province. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Honda arrive et va transformer ici. Hier, mercredi, ce qu'on nous annonçait, c'est on l'a pas vu venir. On n'a pas vu ça venir, là, toute cette demande en électricité. On est passé de « on a plein de surplus » à
« on en manque ».
On en manque vraiment beaucoup.
Puis on va vous demander de moins consommer puis payer plus cher.
Moins consommer vos ridicules ampoules de 8 watts comparé à…
Mais là, j'en ai trouvé des nouvelles. Là, ils consomment moins encore.
Je veux
aider…
C'est très bien l'économie.
Je veux aider l'État.
Oui, OK, d'accord. Je pense que les gens nous suivent.
Oui, oui.
C'est que les enjeux industriels sont autrement plus importants en termes de quantité de kilowattheures allouées et c'est dans les mains d'un monsieur.
Oui.
Donc, Fred, on en revient à nos questions sur est-ce qu'au Québec, on ne devrait pas se méfier parce que par le passé, là, nos choix industriels n'ont pas été très bons. On n'a pas réussi à s'assurer que des industries comme celle de la métallurgie, de la transformation du fer en acier se fassent ici au Québec. Pourtant, c'est ce qu'on voulait. Et là, ben, on dit, est-ce que c'est un bon argument finalement de dire on va vendre notre lithium moins cher, mais il va être transformé ici? À qui je me fie, Fred? Pas à Didier Raoult, certain?
Non.
Fait que moi, j'ai contacté, Fred, le Centre pour la productivité et la prospérité.
Là là.
Hein? Ça sonne-tu assez au centre, pour le moins? C'est un centre qui est associé au HEC et j'en ai entendu parler grâce à un article du Devoir qui faisait un portrait de l'efficacité justement de nos investissements industriels au fil des décennies.
Oui.
Et c'est à partir d'un rapport que le Centre pour la productivité et la prospérité, le CPP, eux autres font un rapport chaque année ou presque depuis les 14 dernières années et eux autres ont un constat assez clair, c'est non, non. nos choix, déjà, eux, on sent qu'ils ne traitent pas qu'on intervienne dans l'économie.
J'imagine.
On devrait laisser l'économie rouler toute seule. Mais une fois qu'on décide qu'on intervient, ben là, ça devient d'autant plus important de savoir est-ce que nos interventions créent de la richesse au Québec ou pas.
Ouais.
Et là, la réponse qu'ils nous offrent, ça n'est pas efficace.
On n'est pas productif.
En tout cas, pas aujourd'hui. Là, tous ces milliards qu'on investit, je ne te parle pas de ceux qui sont investis aujourd'hui.
Non.
Ce dont on parle avec Pierrot Fitzgibbon, c'est pas ça dont on parle, des investissements faits dans les 30 dernières années.
Oui.
Donc, c'est un centre établi à HEC Montréal depuis 2009 qui a été créé. C'est intéressant de savoir qui est derrière le financement de ça. Financement du ministère des Finances du Québec pour répondre aux questions sur les enjeux de productivité économique de la province. Il y a également une fondation, comme c'est souvent le cas, la famille Summers qui, via sa fondation, soutient le centre.
Okay.
Double mandat de recherche. Et un mandat, évidemment, de transfert d'informations vers les médias, vers la population.
On a-tu l'information sur la famille Summers?
Non.
OK.
Non, je pense que c'est une famille qui a fait tout son argent avec le disco. I Feel Love. J'ai fait une recherche.
On dirait que je suis pas sûr, mais...
Oh, dans okay. l'ensemble.
Écrivez-nous. Oui, peut-être.
C'est bon.
Oui, I Feel Love. Ben oui, un classique. Donc. On va peut-être entendre le 20 avril, d'ailleurs.
Sans doute.
Petite grande soirée d'ensemble. Mais on diverge.
On diverge, mais donc ce rapport-là, Fred était cité dans Le Devoir.
Oui.
Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé le centre et on m'a mis en contact avec le directeur exécutif qui s'appelle Jonathan Deslauriers. Très, très disponible, répondu à mes courriels, m'a envoyé des graphiques. Très, très, un pédagogue,
oui.
Donc un confrère, un pédagogue. Oui. Et très, très intéressé à nous faire comprendre c'est des éléments de l'économie que, oui. qui, moi, Fred, m'intéresse, mais vraiment me largue complètement. Oui, oui, oui. Donc, très, très intéressant. Le portrait qu'il nous fait, avant les années 90, la fiscalité des entreprises du Québec était comparable à ce qui se faisait, en gros, ailleurs en Amérique du Nord. Les crédits d'impôt qui étaient offerts, donc les rabais d'impôt, si on veut, étaient les mêmes depuis les années 70. Et ça visait quoi? Ça visait à soutenir les entreprises qui font de la recherche scientifique et les entreprises qui font du développement expérimental. C'était assez simple. Le Québécois moyen aujourd'hui n'a vraiment aucune chance de deviner si c'était des bons choix.
Ouais,
vraiment,
ouais.
Là, vous et moi, là, on n'a aucune idée. Donc, d'avoir un rapport comme celui-là qui s'intéresse sur le long temps, encore une fois, un peu comme la science,
ouais.
qui revisite des données, ça a son importance. Et donc, il nous fait un peu d'histoire économique. Milieu des années 90, on décide de modifier ces politiques-là qui étaient stables depuis les années 70. La situation, c'est que le chômage était élevé. La province faisait chaque année des déficits monstres et notamment, on savait qu'avec la mondialisation, les barrières tarifaires un peu partout dans le monde allaient tomber et on allait devenir en compétition avec le monde entier.
Mais c'est surtout que la province traînait un lourd, lourd passif au niveau de l'emploi. L'économie québécoise restait concentrée dans ce qu'on considère aujourd'hui comme le secteur à faible technologie. Le vêtement, l'alimentation, la première transformation des métaux, le bois, le meuble. Étant donné que la tertiarisation de l'économie tardait à s'opérer, le gouvernement a développé une nouvelle politique industrielle. Il a augmenté la fiscalité des entreprises. En contrepartie de quoi, il a commencé à offrir des réductions d'impôts à travers des crédits d'impôts qui offraient aux entreprises que soit parce qu'elles investissaient dans tel type de technologie ou parce qu'elles s'implantaient dans des créneaux que le gouvernement avait jugé prometteurs.
Ce qui change dans la politique, c'est qu'on augmente la fiscalité. Donc, on va imposer les entreprises davantage, mais on va leur offrir des rabais d'impôts, donc des remboursements, si elles investissent dans certains domaines, des domaines qui créent de l'emploi dans des secteurs
des
nouveaux.
Jobs payants, je veux dire?
Des jobs d'avenir, surtout. Ouais. Et quand on parle de tertiarisation, mais tu as les secteurs primaires de l'économie, secondaire et tertiaire. Primaire, on en parle beaucoup ici, c'est l'extraction. La secondaire, justement, c'est la transformation de ces mêmes ressources. Et le tertiaire, ben, c'est tout ce qui est service. Donc, un avocat, c'est du tertiaire.
Oui.
Un hôpital,
la balado est tertiaire.
On est très tertiaire. On est peut-être même quaternaire.
Peut-être. Et moi, je suis...
Quinquagénaire, très fort. Donc, l'économie... Mais vous n'êtes pas subventionné, vous, Fred.
Non, on le répète.
Ça, j'ai oublié de le dire à M. Deslauriers. Je pense qu'il nous aurait encore plus aimé.
Et la campagne de financement, là, c'est toujours possible de donner parce qu'on n'a pas de subvention. Oui. Et je suis bien content, d'ailleurs.
Oui. C'est la main du marché qui nous flatte elle-même.
C'est la main visible et parfois le majeur.
Oui. Et donc, Fred, l'économie du Québec, à ce moment-là, est en retard.
Oui.
On a une transition à rattraper. Garder nos emplois manufacturiers, des bases technologiques, comme on dit, mais en créer des nouveaux parce qu'on sait qu'on va en perdre, on s'en doute. Le problème de cette politique fiscale-là, c'est une politique de transition et que là, on est rendu dans les années 2024 et que la politique, c'est ce qu'on apprend, que je ne savais pas, elle n'a jamais été changée. Si on creuse un tout petit peu, c'est intéressant parce qu'on se rend compte que les encouragements fiscaux étaient liés à des nouveaux emplois créés parce qu'on était en chômage chronique.
On avait besoin de nouveaux emplois.
Faire travailler du monde dans les secteurs d'avenir avec des crédits d'impôt, c'est l'histoire des jeux vidéo au Québec. Mais ce que le Centre pour la productivité et la prospérité nomme spécifiquement maintenant, c'est que là, ça n'a pas de sens aujourd'hui, de continuer à subventionner la création de nouveaux emplois quand on manque de travailleurs.
Oui.
Ça, c'est un des éléments de ce qui ne fonctionne plus.
Et ça, c'est Bernard Landry.
Oui, tout à fait.
Qui avait créé le pôle des jeux vidéo. Oui. Et je pense que les entreprises avaient 37 % de leur masse salariale qui était remboursée par les crédits d'impôt.
Ce faisant, mais sauf que ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé une grappe et finalement qui est devenue non pas indépendante des subventions, parce que les subventions sont toujours restées là.
Ben oui.
Et donc, pourquoi s'en débarrasser?
Une compagnie comme Ubisoft, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais avait une compagnie milliardaire avait des retours d'impôts sur sa masse salariale à Montréal.
Fin 2000, la transition de l'économie vers la tertiarisation arrivait à terme. Donc, le Québec avait rattrapé une partie de son retard. Le vieillissement de la population change la donne en ce qui est en termes d'emploi, de masse de oui. travailleurs disponibles. Donc, on tombe en pénurie d'emplois, d'employés. Et un autre élément qui est intéressant, c'est que les incitatifs économiques sont fiscaux et donc compliqués. Donc, pour comprendre si vous avez droit à ça, vous, comme baladiste indépendant, faut creuser, faut oui. parler à votre comptable. Vous ne le ferez pas, Fred. Est-ce oui. que ça fait un des impacts sournois de cette politique-là qui n'a pas changé depuis 1990, c'est qu'on incite, on supporte des gros joueurs déjà installés,
ouais.
alors qu'on ne soutient absolument pas le développement des jeunes pousses au Québec. Il se crée moins de nouvelles entreprises au prorata du nombre de personnes qu'on est, qu'en Ontario par exemple, mais aussi, il s'en défait moins. Donc, il y a moins de compagnies qui mettent fin à leurs activités parce qu'elles sont plus rentables. Donc, on maintient en vie potentiellement des entreprises qui ne devraient pas l'être.
Oh.
Et on n'a pas ce qu'il faut. On n'a pas trouvé encore la recette, en ce moment en tout cas, ouais. pour favoriser l'émergence de nouvelles pousses. Et l'exemple le plus patent, selon eux, le fameux multimédia, qu'on devrait cesser de le soutenir ou pas.
Quand l'industrie arrive à maturité, que tu as une expertise locale, que ta main-d'œuvre est productive, c'est un non-sens de défavoriser d'autres industries pour continuer à subventionner cette industrie-là. Juste pour vous montrer les déséquilibres des forces de la concurrence, c'est qu'en parallèle, le gouvernement offre le crédit pour le développement des affaires électroniques, qui cible essentiellement le même type de main-d'œuvre, mais qui n'offrait pas les mêmes taux. C'est pour ça que là, dans le dernier budget, son premier effort de refonte, c'était d'harmoniser les taux. Fait que, oui, il faut plugger, tirer la plug sur ces crédits-là.
Eux autres, ils en ont assez.
Ben oui.
Ils en ont assez. Et si jamais ça a des conséquences, parce qu'en fait, c'est un peu technique quand tu dis qu'on a harmonisé des taux, mais c'est le premier indice cette année qui voit dans le budget qu'il y a peut-être quelque chose qui s'en vient pour modifier cette fameuse politique qui favorise un peu arbitrairement un secteur.
Ouais.
En favorisant la création de nouveaux emplois alors qu'on n'en a pas forcément besoin, on maintient en vie des compagnies qui vivoteraient sans doute ou qui disparaîtraient si on arrêtait de les soutenir.
Oh.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent derrière leur discours qu'effectivement, ouais. on devrait peut-être moins intervenir.
Ouais.
Mais ils sont face à la réalité qui est « on intervient
oui. ».
Et là, donc, tout ce qu'on peut faire, c'est d'évaluer les impacts de nos interventions et au moins les questionner et les challenger.
Ouais.
Donc, il y a ce qu'on appelle dans l'industrie des zombies.
Ah?
Des morts vivants qui fonctionnent qu'à cause de ces subventions-là.
Même tu reçois de l'argent du gouvernement, même quand tu es en déficit, même quand tu ne payes pas d'impôts, donc si tu reçois la portion remboursable, est remboursable, que tu payes de l'impôt ou non. Ça veut dire que toi, tu es en déficit année après année, ben, tu reçois de l'impôt du gouvernement, un chèque d'un retour d'impôt. C'est là que ça crée des déséquilibres dans l'équilibre d'impôts sur le marché du travail, parce que les entreprises qui ne devraient pas survivre parviennent à survivre mm-hmm. parce qu'ils sont subventionnés par l'État. C'est néfaste pour tout le monde. Là. Ça ralentit la croissance économique parce que pas des vecteurs de valeur ajoutée. Il y a qu'à part des ressources humaines mm-hmm. qui seraient nettement plus productives s'ils étaient employés ailleurs dans l'économie.
C'est un discours d'économiste,
oh, oui,
bien
oui.
sûr.
Oui.
Sauf que moi, ça m'alphabétise.
Oui.
J'apprends des choses.
Ben oui.
Et donc, ce qu'on apprend aussi en discutant avec M. Deslauriers, c'est que tout cet argent-là, c'est un choix. Mais donc, l'argent est investi, puis ce qu'on fait pour l'instant, c'est d'investir sans que la prospérité à long terme du Québec n'ait ouais. vraiment évolué. Et là, on se dit qu'on est-tu en 2004, 2005? Non, non. On est rendu en 2024 et ça n'a pas été ajusté, toujours pas.
C'est quand même étonnant, tout ça, quand on sait que le gouvernement actuel est un champion d'économie.
Et Fred, oui, tout à fait.
Non, mais c'est ça qu'ils disent, leur trademark. Après ça, on a eu les libéraux, qui étaient aussi des champions d'économie, parce qu'on n'avait pas des dangereux.
C'est plutôt à ça
gauchistes.
Que je pensais, moi. L'époque Couillard, Charest,
là,
c'est une époque...
Oui, mais la CAQ, ça fait depuis 2018 qu'ils sont là.
Oui.
Ils n'ont pas pensé revoir ça, alors que...
L'étiquette de la CAQ est économique.
Oui.
C'est vrai.
Ils n'ont pas cru bon de faire le ménage là-dedans, eux qui devaient réduire en plus la taille de l'État. C'est étonnant.
C'est des bonnes questions, Fred.
Ouais.
Sauf que
notre
nouvel ami Jonathan
oui.
Deslauriers.
Directeur. Pour l'instant, c'est votre ami.
Oui, c'est vrai.
C'est pas le mien.
D'accord. Ça va, je le prends.
Non,
c'est mon
va.
Ami à moi.
Ouais, ouais.
C'est mon ami spécial. Il existe et il répond à mes questions.
Je le découvre aujourd'hui. Là.
Fred, tout de même, ce qu'il nous dit, c'est que le gouvernement avait les bons mots-clés. Évidemment, quand on parle de prospérité, on parle de PIB.
Oui.
Donc, c'est à ses limites. Oui. On n'est pas en train oui. de parler à aucun moment de qualité de vie. C'est pas de ça dont on parle. On parle d'une métrique comparable partout dans le monde qui est le PIB.
Oui.
Donc, c'est de ça qu'on parle. Le gouvernement a identifié des indicateurs qu'on doit surveiller pour voir est-ce que oui ou non nos politiques fonctionnent. On parle de l'investissement, l'innovation, la recherche, le développement, les exportations. Et vous et moi, Fred, est-ce qu'on sait vraiment où en sont ces indicateurs? Non, mais ce que le CPP nous dit, c'est que tous ces indicateurs-là sont dans le rouge et ça fait longtemps.
Bon.
Donc, les indicateurs que le gouvernement s'est placé, oui, sur ce plan-là,
oui.
Considérant tout ce qu'on investit, on peut dire que ça va mal. Et ce rapport-là redit la même chose chaque année depuis des années.
Et pourtant, alors,
c'est pas seulement la CAQ là, qui ignore les signaux
de l'économie.
Ils sont peut-être trop occupés, Fred, à vendre quelque chose.
De l'énergie pas chère.
Ce que Jonathan Deslauriers suggère, évidemment pas juste lui, mais son centre, c'est qu'il faut ajouter des mécanismes d'évaluation rigoureux des choix qu'on fait.
Oui.
Et là, c'est ça qui est fou, c'est que tous ces milliards investis depuis les années 70, il n'y a pas de mécanisme pour revisiter est-ce qu'on fait la même chose qu'on faisait avant. C'est ça, Fred, que nos intervenants nous disaient il y a un mois. Monsieur Blain, Monsieur Mousseau, on semble refaire des erreurs qu'on a faites. On n'est même pas capable d'évaluer et de modifier ce qu'on fait depuis 30 ans. Donc, les milliards consentis par le passé, c'est important. C'est important de réaliser que c'est crucial aujourd'hui aussi parce qu'on est face à une filière comme la filière batterie qui aspire les milliards. Et qu'est-ce qu'on a devant nous, Fred? On a une éminence. On a quelqu'un qui est très, très sûr de lui. On est en transition écologique, Fred. On a vraiment envie d'entendre des mots-clés. Décarbonation, industrie d'avenir, emploi payant. Est-ce qu'on est devant Didier Raoult, Fred, ou on est devant... C'est gros ce que je dis,
non,
mais est-ce qu'on l'écoute juste parce qu'il a l'air sûr de lui? Parce que c'est un Top Gun quand on se rend compte que cette personne-là est la première à rejeter des questions du revers de la main.
Ouais.
Tu sais, dans le fond, ce mécanisme rigoureux que demande Jonathan Deslauriers, c'est un peu comme la revue par les pairs scientifiques, mais on ne l'a même pas.
Ouais.
Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste les questions qu'on peut poser. Et là, on est face à une éminence comme l'équipe de Didier Raoult qui répondait aux gens curieux. Écoutez, là, c'est nous les experts.
Vous osez nous questionner?
Laissez-nous travailler.
Ouais.
C'est une bonne idée que Honda vienne ou pas?
Ouais.
Fred, j'en ai fait des appels. Hein. J'ai parlé à des experts. Il n'y a personne qui a pu me dire... On est sûr que c'est une bonne idée.
Wow.
Ou une mauvaise. C'est des enjeux super compliqués. Mais ceux qui ont l'air trop certains, là.
Faut se méfier.
Faut se méfier.
Ouais.
Sur ce, bonne semaine.
Moi, je suis certain d'une chose, par contre.
Mm-hmm.
Cette chronique est terminée.
Ah!
Alors voilà ce qui conclut ce 26e épisode de La Balado. Est-ce qu'on peut réentendre Yvon Rivard le plus vite possible ici? Je sais qu'il se fait souvent solliciter pour la radio puis il ne veut plus en faire parce que c'est trop contraignant sur le temps et souvent même sur la structure des émissions qui sont très scénarisées, entre guillemets, à la radio publique, entre autres. Je le sais parce que j'y ai déjà œuvré. Et là, je pense qu'il a découvert... Enfin, en fait, il découvre de plus en plus ce grand terrain de jeu qu'est la balado et ça lui va très bien. Vraiment, c'était passionnant ce qu'il a dit. Tu sais, je fais du montage chaque semaine, évidemment, puis j'ai pas le choix parce que c'est mon projet puis je veux que ça sonne le mieux possible. Mais là, fallait des fois que je prenne des pauses parce que j'étais plus auditeur que monteur. Quand j'écoutais Yvon Rivard. Alors voilà. Je remercie Isabelle Arsenault et Mathieu Bédé. Isabelle Arsenault, que j'aurais aimé entendre un peu plus, mais on va la réentendre dans d'autres contextes. De toute façon, on s'est écrit, puis elle a des idées de peut-être de chroniques, d'interventions, où ça ne serait pas dans le contexte de l'inconvénient. Alors, à suivre. Mais oui, amie de la balado, elle aussi. Puis ben, son livre sur le monstre de Miramichi m'intéresse, évidemment. Vous avez écouté l'épisode de l'an dernier sur Alan Légère et ce qu'elle disait. Là, je vais peut-être mettre le lien pour vous faire gagner du temps dans l'infolette de cette semaine, qui risque d'être chargée parce que je pense que Godefroy a beaucoup de liens à vous partager. Il va falloir que j'y écrive d'ailleurs pour qu'il m'y envoie. Puis que je vous envoie ça la semaine prochaine. Je rappelle, on faisait des blagues avec Godefroy. La campagne de financement est effectivement toujours en cours, c'est-à-dire qu'elle est en cours jusqu'à la fin de la saison. En fait, elle est toujours en cours. Puis il y a encore des gens qui soit découvrent le balado ou attendent souvent le printemps. J'ai comme une gang de donateurs du printemps, mais sachez que c'est toujours possible de soutenir financièrement ce projet-là qui ne bénéficie pas de subventions, je le rappelle. Et peut-être que même s'il y en avait, je ne suis pas sûr que j'en demanderais pour pouvoir compter sur vous. Ce qui fait que cette communauté-là rend ce podcast plutôt indépendant, même si de plus en plus j'ai certains partenariats qui me permettent de vous offrir un contenu de qualité et qui permet que tout le monde soit payé. Tout ça pour dire que la campagne n'est pas terminée. Vous allez sur lefredsavard.com et vous appuyez sur le bouton « Soutenir la palado » et vous allez avoir des choix qui sont c'est assez clair, normalement. Sinon, vous m'écrivez, soit au baladofredsavard@gmail.com ou sur la page Facebook. Si vous avez besoin de détails, vous avez des suggestions, je suis toujours content de vous lire. Alors voilà, on va terminer bien sûr en musique. Puis c'est drôle parce qu'en réécoutant Yvon Rivard, j'ai compris peut-être ce que voulait dire Michael Stipe d'R.E.M., dans peut-être une des chansons les plus emblématiques de R.E.M., qui va, entre autres, être diffusée le 20 avril à la soirée dansante du Lion d'Or, qui est complètement à guichet fermé, fait que ne m'écrivez pas pour avoir des billets. Il en reste pour le 21 juin, par contre, mais la moitié de la salle est presque déjà vendue, puis j'en parle pas. Mais voilà, ces soirées dansantes-là sont toujours bien, bien le fun, et cette chanson-là que je vous offre aujourd'hui, je pense que j'ai compris le refrain en entendant et Mathieu et Isabelle et Yvon Rivard discuter de l'Apocalypse, de la Révélation et que dans le fond, une réelle révolution, faut qu'il y ait une table rase d'une certaine façon. En même temps, faut pas dire ça parce que l'histoire nous montre que pas vraiment, mais que dans le fond, la fin du monde, c'est peut-être le début d'autre chose, dans le fond, c'est ça que je veux dire. Et je pense que j'ai compris donc ce que voulait dire Michael Stipe. Bonne semaine tout le monde. That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes, an aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. I have a hurricane, listen to yourself, turn world serves its own needs. Dummy serve your own needs, beat it up, an ox beat, grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down. High wire and a fire represented seven games in a government for hire and a combat site. Left to us are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team my team reporters baffle Trump. Slice and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate, automotive centerate. Light a candle, light a motive, step down, watching heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear, cavalier, renegade, steer clear. A tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives, and I decline. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world. Leonard, Brezhnev, Lenny, Bruce, and Lester Banks. Birthday party, cheesecake, jelly bean, boom. Symbiotic, patriotic, slam, button, neck. Right?
Right.
It's the end of the world. It's the end of the world as we know it, and I feel fine.